Chapitre 11. La Nouvelle-Orléans. Nous sommes arrivés à la Nouvelle-Orléans plus ou moins au coucher du soleil. J'étais le seul du groupe à m'y être déjà rendu. Un hiver où papa m'avait emmené chez un docteur qu'on appelait un oculiste et qui m'avait fait porter des lunettes. Elles me plaisent mes lunettes car sans elles, je ne verrais pas grand-chose. En revanche, je me souviens qu'à cette époque, la ville ne m'avait pas plu du tout. Ça puait, il y avait partout des maisons et les rues étaient pleines de boue. Il y avait trop de gens. Et de boue, et d'humidité glaciale, et de boue. Maintenant que c'était l'été, il faisait une chaleur étouffante, et je me sentais épuisée. Peut-être que j'avais même un peu de fièvre. La traversée du lac Salvador avait été plus pénible que prévu. J'avais dû relayer Petit Trois et ramer des heures en plein soleil, au risque de faire un malaise. Pour ne rien arranger, il avait fallu traîner le canoë hors de l'eau, sur une sacrée distance. Résultat, j'avais mal aux bras, au dos, et j'avais des piqûres de moustiques partout. « Ça suffit !» me suis-je exclamé. « Il faut qu'on s'arrête et qu'on bivouaque pour la nuit. »« Et pourquoi ?» a demandé Julie. « Parce qu'il fait nuit noire et que nous sommes presque arrivés en ville. On verra comme des coqs en pâte, on sera comme des coqs en pâte sur ce beau pré. » Petit Trois et Julie m'ont regardé d'un air bizarre, comme si des moustaches de poisson-chat venaient brusquement de pousser sous mon nez. Je leur ai demandé. « Qu'est-ce qu'il y a ? Vous proposez quoi, vous ?»« Nous, on propose de faire un tour en ville, idiot !» a pesté Julie. « Je ne suis jamais allée à la Nouvelle-Orléans. Je veux jeter un œil. » »« Ça pourrait être dangereux. » Je n'osais même pas imaginer les choses terribles qui pouvaient nous arriver. Une belle quantité d'angoisse risquait de s'ajouter à ma liste. « Tout ce voyage est dangereux, » a fait remarquer Petit Trois. « C'est ça qui est beau, tu ne trouves pas ?» Nous avons laissé le canoë au pied d'une digue, bien dissimulée au milieu des roseaux. Je voulais aussi creuser un trou dans la boue pour y cacher nos affaires les plus précieuses, à savoir la montre, le revolver et les dollars, mais personne n'était d'accord. Et puis il n'y avait pas moyen d'arracher cette satanée montre des mains de mine. La Nouvelle-Orléans est une ville remplie de voleurs, tout le monde le sait. Quelqu'un devrait même rester ici et monter la garde. « Oh, tu n'as qu'à le faire, espèce de rabat-joie !» a dit Petit Trois. « Moi, je vais m'amuser. »« Et moi, je te suis !» a dit Julie en attrapant Mine par la main. Je les ai regardés s'éloigner le long du sentier qui se perdait entre les maisons. Et puis... « Eh bien, j'ai décidé que je n'avais pas envie de rester là, sans personne. » à part une armée de moustiques féroces. Alors j'ai pris une grande inspiration et je leur ai couru après. Prenez quatre enfants qui ont toujours vécu au milieu des marais et faites-les débarquer brusquement dans les rues d'une grande ville. Tout était tellement improbable qu'au lieu de la Nouvelle-Orléans, j'avais l'impression d'avoir atterri sur la Lune. J'étais tellement perdu, heureux et terrorisé que cela me donnait le vertige. La ville n'était pas du tout comme dans mon souvenir. C'était un tourbillon de bruit, d'odeur, d'énergie. Il y avait des gens partout, des blancs, des noirs et des indiens. Tout le monde mangeait et buvait, bavardait, marchait, courait, se bagarrait comme des chiffonniers. Des petites lanternes accrochées partout transformaient les rues en un firmament d'étoiles tremblantes. Il y avait des fiacres, des chevaux et même des gentlemen à bicyclette. Je n'en avais jamais vu ailleurs que dans les pages du catalogue. « Waouh !» ai-je murmuré sans en croire mes yeux. « C'est... tout est... tellement... » « Fantastique !» s'est exclamée Julie. Notre amie a fendu la foule en entraînant Mine comme la queue d'un cerf-volant. Avec Petit Trois, nous l'avons suivi en courant. En chemin, j'ai tourné la tête à droite, à gauche, pour voir tout ce qui m'entourait. Au coin d'une rue, deux ivrognes se battaient avec un couteau. Des gens avaient formé un cercle autour d'eux et les encourageaient. Trois filles dansaient pieds nus sous les applaudissements d'une petite troupe de jeunes hommes, d'un petit groupe de jeunes hommes. Un noir jouait de l'harmonica. L'air était chargé d'épices, d'alcool, de viande grillée. Nous sommes tombés nez à nez avec une foule de jeunes tellement serrés les uns contre les autres qu'ils occupaient toute la chaussée. Ils étaient tournés du même côté, mais ne semblaient pas faire la queue pour quelque chose. Les garçons tenaient les filles par la main ou les enlaçaient par la taille. Étrange. C'est là qu'elle a résonné dans mes oreilles, la musique. Un rythme déchaîné et endiablé, le plus merveilleux que j'ai jamais entendu. Sans y réfléchir à deux fois, nous nous sommes faufilés au milieu des gens en nous glissant entre les jambes des uns et des autres pour arriver au premier rang. La musique provenait d'un petit orchestre de musiciens noirs. Ils portaient tous des habits blancs très élégants. L'un avait une contrebasse et un autre une guitare. Il y avait aussi un trombone et deux clarinettes. Enfin, devant eux, un homme soufflait dans une trompette comme une locomotive. Quel spectacle ! Il sortait de cette trompette toutes les notes possibles et imaginables. La musique était tantôt joyeuse, tantôt poignante. Les autres membres du groupe, eux, se contentaient simplement d'accompagner en suivant le rythme. Mais le plus extraordinaire, c'était que cette musique changeait et se transformait en fonction de ce qui se passait alentour. Quand une fille s'est mise à danser en tournant sur elle-même comme une toupie, une suite de notes ont jailli de la trompette pour suivre les mouvements de sa jupe, telle une broderie. Deux garçons qui s'étaient poussés sont tombés par terre, ce qui a inspiré au musicien un petit motif amusant qui a fait rire tout le monde. Ce n'était pas la musique sérieuse et raide que ma mère jouait parfois sur le piano du salon. C'était une musique imprévisible, improvisée. Elle était vivante. À côté de l'orchestre, un vieillard à la barbe sale tenait un tonneau entre ses jambes et plongeait de grandes chopes dedans. Il criait « Torboyau à Penny !» Avant que je comprenne ce qui se passait, Titrois s'est planté devant lui et il a dit « J'en veux un. Tu as un penny ?»« Bien sûr. » Titrois a attrapé une pièce dans sa poche et le vieux a rempli une chope d'un liquide transparent à l'odeur atroce. On en avait les larmes aux yeux. « Qu'est-ce qui joue ?» lui ai-je demandé. « Vous n'êtes pas d'ici, pas vrai ?» a-t-il souri. « Sinon, vous auriez entendu parler de Buddy Bolden, le meilleur clairon de la Nouvelle-Orléans. Quand il joue, la ville entière s'arrête pour l'écouter. Wow, « Waouh ! Et comment s'appelle cette musique ?» Le vieux a haussé les épaules. « Je ne sais pas, mais qu'est-ce que ça peut te faire ?»« Pour comprendre la musique, on n'a pas besoin d'un nom. Il suffit d'avoir des oreilles. » À ces mots, Julie m'a pris par l'épaule et m'a de nouveau traîné au premier rang pour écouter ce Buddy Bolden. Titrois m'a passé la chope. C'était comme boire du feu liquide. J'ai toussé à m'en faire éclater les poumons. Et puis nous avons commencé à danser. Et puis j'ai encore bu. Et puis je ne sais pas, car je ne me souviens plus du reste. Je me suis réveillée allongée sur le talus de la digue, la bouche pâteuse. Le soleil s'était déjà levé depuis un moment, et j'avais mal aux tempes comme si quelqu'un y avait planté un clou. J'ai pivoté sur le côté et vomi toutes mes tripes. « Regardez qui voilà !» dit Titrois, tandis que son visage complètement flou apparaissait devant moi. J'ai demandé « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Quelque part, à la hauteur de mes pieds, Julie a répondu. « Qui s'est passé que tu as été malade et qu'on a dû te traîner jusqu'ici à bout de bras ?»« Je suis encore malade. » « Tâche de te rétablir rapidement, » a répliqué Titrois en me passant mes lunettes. « Il faut que tu ailles en ville. »« Moi ? Tout seul, tu veux dire ?»« Exactement. » J'ai posé mes lunettes sur mon nez. Les ombres troubles que j'avais face à moi ont laissé place au visage familier de mes amis. Puis je me suis assis. J'avais la tête qui tournait, et de la fièvre, à coup sûr. « Je crois que j'ai de la fièvre. »« Je crois que tu as la gueule de bois, surtout, » a ricané Julie. « Mais ça ne te dispensera pas d'aller en ville. On n'a pas le choix. Pourquoi ?» Titrois a soupiré et Julie m'a fait un clin d'œil. « D'Ivoire, tu ne t'es rendu compte de rien hier soir ? Enfin, en dehors du fait que tu ne tiens pas l'alcool. » « Il ne s'est rien passé d'extraordinaire, j'ai l'impression. On a dansé, tout le monde nous regardait. » Julie a acquiescé. En observant Titrois, j'ai fini par comprendre. Mon ami était pieds nus. Son pantalon court était en piteux état et sa chemise, déjà déchirée au moins trois endroits différents, partait en lambeaux. Comme si cela ne suffisait pas, il était couvert de boue et d'herbe du marais. Quant à ses cheveux en bataille, ils ressemblaient à un nid d'hirondelle. Bref, on aurait dit un feu follet tout droit sorti du bayou, alors qu'à la Nouvelle-Orléans, les gens étaient tous élégants au possible, avec leurs chaussures brillantes et leur manière raffinée de citadins. « Le problème, c'est qu'on est quatre campagnards qui font peine à voir, » s'est agacée Julie. « On a l'air d'une bande de pouilleux qui ne savent pas comment se tenir en ville. Du coup, on attire l'attention et les soupçons de tout le monde. » Si on ne se décide pas à réagir, la police va finir par nous demander nos papiers ou l'identité de nos parents, et tôt ou tard, ils nous renverront chez nous. » Sa voix tremblait légèrement, comme si cette perspective la terrorisait. Mais il y avait autre chose, une espèce de honte. Peut-être s'était-elle sentie mal à l'aise la veille à cause de sa vieille robe sale, alors que les autres filles avaient des tenues resplendissantes. Alors qu'est-ce qu'on fait, à votre avis ? Tu es le plus grand, Ed. Tu sais parler sans faire de faute. Tu as des lunettes. Et surtout, tes vêtements sont en ton meilleur état. Tu vas donc aller en ville, recueillir des informations et acheter des vêtements neufs pour tout le monde. Je n'avais guère le choix. Cela faisait un bon moment que je l'avais saisi. Je me suis relevée en essayant de contrôler ma tête qui tournait, la fièvre et tout le reste. J'ai dévalé le talus, atteint le bord du canal, lavé mon visage dans l'eau marécageuse et coiffé mes cheveux humides avec mes doigts. J'ai l'air de quoi ? Je demandais à Julie. « Un vrai mannequin » a-t-elle répondu. En route pour la ville, je me suis aperçu que marcher me faisait du bien. Après tout, j'avais les poches remplies de sous et la musique de la veille bourdonnait encore dans mes oreilles. Et il faisait même un temps splendide. Que demander de plus ? J'ai fait une halte sur le stand d'un vendeur de rue pour acheter une part de tourte à la langouste en guise de petit déjeuner. Je me suis sentie légèrement coupable car les autres n'avaient certainement rien à manger. Mais j'avais une mission à accomplir et il me fallait des forces. Et puis cette tourte était un vrai régal. J'ai flâné dans les rues jusqu'à ce que je tombe sur un magasin à l'allure raffinée qui pouvait faire l'affaire. Si Julie avait vu juste, le propriétaire risquait d'avoir des doutes en voyant un gamin avec tant d'argent à dépenser. Mais j'avais préparé une petite histoire. En l'occurrence, que mes parents vivaient au Kansas et que je venais de débarquer à la Nouvelle-Orléans pour rendre visite à mon oncle. C'était lui qui m'avait envoyé acheter les vêtements pendant qu'il faisait d'autres commissions. Avant même que j'aie fini de parler, le commerçant a éclaté de rire. « Ah oui, tu viens du Kansas, toi !» J'ai répondu « Oui, monsieur, j'ai vu le jour et grandi là-bas. » « Alors comment se fait-il que tu parles français ?» Mince, je n'avais pas songé à ce détail. Le français était la langue des Cajuns et du Bayou, alors qu'au Kansas, tout le monde parlait anglais. J'ai eu tellement honte que je me suis sauvée du magasin. Le temps de reprendre mon souffle, j'ai tenté d'entrer dans une autre boutique en modifiant légèrement mon histoire. Comme c'était nettement mieux, je me suis rendue dans un troisième endroit, et j'ai commencé à y prendre goût. En tout et pour tout, ce matin-là, j'ai acheté un complet d'été pour moi, en lin clair, digne d'un vrai Mylord. Une petite robe à fleurs pour Julie, un gilet à carreaux pour moi, une chemise ayant déjà servi pour petit trois, un chapeau pour moi avec un galon sur le pourtour, une livrée de domestique de seconde main pour Mine, une paire de chaussettes pour moi, un corsage en coton pour Julie, une petite cravate avec une pince pour moi, une bourse en velours où Mine pourrait mettre la montre, des bottes en vachette pour moi, des chaussures pour petit trois, vieilles mais encore acceptables, des chaussures vernies pour moi, des carpins rouges pour Julie, des escarpins rouges pour Julie, une vieille valise en cuir avec une serrure en cuivre pour ranger toutes nos affaires. Bavarder avec les commerçants m'a permis de recueillir quelques éléments utiles en prévision de la suite du voyage. Dans une papeterie, j'ai acheté une carte des États-Unis d'Amérique et une autre plus détaillée de l'État de Louisiane. Je n'ai retrouvé mes amis que vers midi. Ils fumaient une cigarette à l'ombre d'un énorme cyprès. Je me suis approché en silence, fier comme un paon, de mes habits neufs. Lorsqu'ils m'ont aperçu, j'ai soulevé mon chapeau d'un geste élégant, ajusté ma cravate et posé par terre la valise en cuir comme l'aurait fait un voyageur européen tout juste descendu d'un transatlantique. « Excusez mon retard, me suis-je exclamé d'un ton hautain. J'espère que vous ne vous êtes pas trop ennuyé en mon absence. »« Oh, pas du tout, » a dit Petit Trois en laissant échapper une volute de fumée. « J'ai vendu le canoë. »« Vraiment ? Pour $2 ?» Je n'arrivais pas à y croire, mais Julie me l'a aussitôt confirmé. « C'est un type à moitié fou qui l'a acheté. Il a dit que c'était une vraie pirogue cajoune et qu'il la voulait à tout prix. » Si on avait su qu'il y avait des gens pareils dans le coin, on aurait passé nos journées à fabriquer des pirogues et on serait venu les vendre ici, a ajouté Petit Trois. Je ne savais pas quoi penser. Je n'avais jamais eu besoin d'argent jusque-là. Joe l'Indien n'en avait pas et cela ne m'empêchait pas de vivre correctement. Malgré tout, le reste du monde semblait fonctionner autrement. J'en avais eu la preuve au cours de mon expédition dans les boutiques. À propos, ai-je murmuré, pour nos vêtements, j'ai dépensé $10. Petit Trois a laissé sa cigarette s'échapper de sa bouche sous le coup de la surprise. T'es devenu fou ou quoi? C'était pour faire des achats utiles. Mais c'est presque la moitié de nos économies. Plus exactement, c'est environ un quart de notre pécule, sans compter l'argent qu'on a gagné avec le canoë, mais on pourra toujours vendre le revolver de Jack en cas de besoin. Le revolver? Patouche. J'ai pris un instant pour réfléchir. Fallait-il que je lui saute dessus pour lui donner une bonne leçon? Avec mes vêtements neufs, pas sûr. Et puis un gentleman comme moi ne pouvait pas se salir les mains avec un sauvage. Au lieu de se disputer, on devrait penser aux choses sérieuses, s'est alors exclamé Julie. Ed, tu en sais plus en ce qui concerne la suite du voyage. J'ai remis d'aplomb mon chapeau en prenant un air important. Bien sûr que oui, c'est pour ça que j'ai fait autant de détours. Sur ces mots, je me suis assis, non sans avoir déplié un mouchoir par terre, afin de ne pas salir mon pantalon, et j'ai montré notre carte flambant neuve. Mine, qui était généralement perdue dans son monde, s'est relevée d'un bond et s'est empressée de venir voir. Il a attrapé le grand morceau de papier, l'a tourné dans tous les sens, puis a posé un doigt pile à l'endroit où il était écrit « New Orleans », la Nouvelle-Orléans. Là-dessus, il l'a posé plus haut, à l'endroit où on lisait « Chicago » cette fois. Entre les deux, il y avait l'équivalent d'une main. « Hein? Mais c'est quand que t'as appris à lire, Mine ?» Le petit m'a regardé avec un sourire. Comme d'habitude, il n'a pas ouvert la bouche. « Julie, c'est toi qui lui as appris ?»« Oh non, mais Mine apprend en un rien de temps. » Il ne parle peut-être pas beaucoup, mais là-dedans, ça travaille, et pas qu'un peu. Julie disait toujours que Mine était intelligent. Mais pour être honnête, il ne faisait pas beaucoup d'efforts pour lui donner raison. Parfois, il ressemblait plus à un animal de la forêt qu'à un enfant. Petit Trois, lui, était resté concentré sur la carte sans sourciller. Je ne pensais pas que Chicago était aussi loin. Ça fait une petite trotte. Comme tu dis, a convenu Julie. Dans les faits, on devait traverser la moitié des États-Unis d'Amérique du sud au nord. Il suffisait de regarder la carte pour comprendre que ce serait un long, très long voyage. Cette ligne rouge en zigzag, c'est celle du chemin de fer, ai-je expliqué en la montrant du doigt. Le train est le moyen le plus rapide pour arriver à destination. Aucun doute là-dessus. On grimpera dedans, on voyagera toute la nuit et on arrivera à Memphis. Là-bas, on changera de train et après une autre journée de voyage, on sera à Chicago. Fantastique, a approuvé Petit Roi. Sauf que tout ne sera pas si simple, je me trompe, a demandé Julie. Elle arrivait toujours à lire en moi, d'une façon ou d'une autre. J'ai tâché de me renseigner sur le prix des billets, ai-je expliqué. Et ma foi, il faut pas mal d'argent. 27 $ pour arriver jusqu'à Chicago. 27 $ par tête. Petit Roi m'a passé la cigarette sans que j'aie à la demander et j'ai pris une longue bouffée qui m'a brûlé la gorge. L'autre possibilité, c'est de prendre un bateau à vapeur et de remonter le Mississippi. J'ai tapoté la carte avec mon ongle à l'endroit du grand fleuve qui cheminait vers le nord en décidant d'innombrables méandres et lacets. Le Mississippi suit exactement le parcours que nous devons emprunter, mais avec les virages qu'il fait dans tous les sens, on mettra plus de temps qu'en train. « Malédiction, je savais que c'était une mauvaise idée de vendre le canoë !» s'est écrié Petit Roi. J'ai failli éclater de rire. « Le fleuve fait 1 200 000 de long. On n'aurait jamais pu le remonter à la rame. Et à contre-courant en plus. Non, non. Il faut qu'on prenne un moyen de transport, même si on a 5 jours de voyage avant d'atteindre Saint-Louis. » J'ai laissé Petit Roi et Julie repérer la ville sur la carte. À partir de là, on devra trouver un moyen de couvrir les 300 ou 400 miles qui nous sépareront encore de Chicago. A marmonné Petit Roi. Combien coûtent les billets pour le bateau? 5 $ chacun si on voyage sur le pont. Mine paiera la moitié, car ce sera notre serviteur. Mon frère n'est pas un domestique, a protesté Julie. C'est mon frère, un point, c'est tout.
Je sais. On fera semblant, rien de plus, d'accord?
Ça nous permettra d'économiser un peu d'argent. Julie m'a jeté un œil perplexe.
Ed, tu sais ce que ça représente, 5 $ chacun, a-t-elle insisté?
Entre tout ce que tu as dépensé pour ces vêtements et le prix de la traversée, on sera presque à sec en arrivant à Saint-Louis. J'ai haussé les épaules. Elle avait raison. Peut-être avais-je été trop impulsif au moment de mes achats, mais il était trop tard. On s'en sortira bien d'une façon ou d'une autre, ai-je marmonné. Julie ne semblait toujours pas me croire et un silence gêné s'est créé entre nous. Comme je ne savais pas quoi faire, j'ai ouvert la valise et sorti les chaussures rouges que j'avais achetées pour elle. L'espace d'un instant, j'aurais juré que ses yeux étaient devenus humides. Elle m'a demandé... « Elles sont pour moi ?» J'ai répondu « Bien sûr, je les ai trouvées jolies. » Julie m'a regardé d'un drôle d'air. « Tu es un garçon plein de surprises, Eddie Brown. »